On commence par Facebook et sa nouvelle crypto-monnaie qui va s'appeler Libra.
Bon, évidemment, les puristes, Paul, de crypto-monnaie vont dire « Hey, c'est pas une vraie crypto-monnaie, elle est pas parfaitement libre, elle est pas complètement technologiquement indépendante et tout ça. » Mais mettons que Facebook dit « On fait un premier pas dans là-dedans, puis on fait une crypto-monnaie qui va être une monnaie. » C'est quelque chose qu'on va échanger et qui n'aura pas de volatilité comme un Bitcoin ou autre monnaie virtuelle qui sont exposées 100% à l'offre et la demande. Évidemment, les régulateurs regardent ça avec du coin de l'œil, ils se disent « Hey, attends une minute là, qui va protéger les clients? Qui va faire la protection des actifs? La protection des droits, la prévention de la fraude, la détection de la fraude? » Donc, tout ça fait en sorte que, tu sais, Facebook n'a pas démontré dans les dernières années que côté protection de nos données personnelles, ils scoraient fort, tu comprends? Mais ils vont là-dedans, puis en fait, ils créent une entité indépendante pour dire, écoute, nous autres, là, on veut juste que ça fonctionne. Ça va être du monde de Mastercard, ça va être du monde, tu sais, de PayPal, ça va être du monde indépendant de nous. On va créer une entité qui va gérer ça, qu'on va créer ça. Dans le fond, tout le monde veut éventuellement faire de l'argent avec ça, mais Facebook, ce que la compagnie veut surtout, c'est-à-dire, OK, même si on faisait pas une scène avec ça, si les échanges monétaires passent par Facebook, puis nos applications, puis Messenger, puis peu importe, ça veut dire que les gens vont utiliser Facebook, ça. Mm-hmm. Ça va assurer la pérennité
ben
de
voilà.
l'affaire. On va continuer à vendre de la pub.
Belle
on va
vitrine.
Être un one-shop mall, Paul, du réseau social, mm-hmm. tu comprends? Et un jour, tu sais, on a déjà oublié présentement les numéros de téléphone de nos amis et leurs adresses courriel avec les Messenger de ce monde.
Oui.
Bientôt, on va peut-être oublier le fait qu'ils ont des comptes de banque puis on va leur transférer de l'argent.
Ah.
Alors, c'est ça le pari. Et Mastercard derrière, avec Visa. Et ça pointe le bout du nez et PayPal et tout ça. On veut tout être là pour faire des frais sur les transactions, mm-hmm. tu comprends?
Ben oui.
Donc, il n'y a rien de gratuit. S'il y a une tarte à partager quelque part, une nouvelle tarte, ben les anciens pogneurs de tarte veulent être encore là.
Ouais.
Donc, c'est un peu ça. Donc, toute la nouvelle d'aujourd'hui, la grande annonce, c'est de dire simplement que Facebook veut que vous fassiez des transactions d'argent pour garder votre captation de valeur. C'est-tu beau?
Oui, c'est très beau. C'est bien dit. Et ça donne à peu près le ton sur cette arrivée de Libra sur le marché.
Oui, et pas le compte de banque va s'appeler Calibra.
Calibra, ben oui, évidemment.
Calibré, évidemment.
Ben oui, évidemment.
Et là, là.
Les économistes du mouvement Desjardins sont confiants que les taux hypothécaires, les taux obligataires de long terme, vont demeurer bas, ce qui va réjouir les futurs acheteurs ou de propriétaires de maisons qui doivent renouveler leur hypothèque.
Oui, et parlons-en. Si tu vas sur Multipréau, peu importe le courtier hypothécaire, tu te rends compte d'une chose. Le taux variable 5 ans, dans le moment, est à 2,95. Le taux fixe fermé 5 ans est à 2,79. Là, les gens disent, bien voyons, puis ils arrivent. Veux-tu bien me dire dans quel monde tu vis pour penser que le taux variable à ce moment-ci peut être rentable quand le taux fixe est inférieur au taux variable? Ben, faisons un petit calcul. Mettons que les gens regardent la courbe de taux. Puis tu te dis, OK, le taux fixe est basé sur les taux obligataires. Puis que le taux directeur il est à 25 points de base. Donc, une descente, de descendre en bas du taux fixe. Donc, des fois, il y a des gens qui vont accepter présentement de payer 2,95 variables. En enlevant 25 points de base et en se disant, ouais, mais peut-être dans 2-3 mois, au lieu d'avoir 2,95, je vais avoir moins 0,25, 2,70 et je vais être en bas du taux fixe 5 ans.
Ouais.
Et peut-être le taux fixe 5 ans, mais c'est pas grand-chose. Donc, les gens peut-être préfèrent sécuriser un beau 2,79, 5 ans fixe quand il y a un bon dossier. Mais c'est pour ça. C'est parce que le court terme est basé sur le taux directeur. Et le 5 ans fixe est basé sur le taux obligataire. C'est pas la même affaire, mais ça dit que la courbe est flat pas à peu près. Ça dit, hey, la gang, on est gagnant, ça va bien. Donc, tout le monde, on paniquait tous, parce que le gouvernement nous a dit, écoutez, la gang, préparez-vous, là, on va aller vers un taux directeur qui est d'équilibre, on va arrêter de vous favoriser. Puis là, wop, tout ce qui se passe alentour, on fait en sorte que, wop, les taux, finalement, que tu prennes un ou l'autre, on peut tout seul dire que c'est pas cher.
Non.
Et en bas de 3%.
Bon,
moi, je suis variable sur mes deux immeubles. Je peux te dire une affaire. Même si c'est plus cher
même
que
si
5 ans.
Si c'est variable, c'est combien?
C'est 2,95, 5 ans de variable présentement. Ah, tu sais, on s'entend. Mais ça, c'est évidemment, vous dites, si vous arrivez chez votre banquier, vous pouvez pas négocier ça. C'est pas pour rien. C'est parce que vous avez peut-être un score de crédit un peu moins intéressant que d'autres. Mais ça, c'est le bon taux.
Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes générations n'ont pas accès à un capital souvent.
Ah oui.
Nécessaire pour l'acquisition.
C'est fou pareil, Paul.
Soit d'un immeuble.
T'as 100 000 de cash down, t'as 20% sur un duplex à Montréal. Oui. Pas en état.
Oui.
Tu sais, tu t'achètes un condo de 500 000, tu dis, hey, je me paye pas la totale, là, je me paye un 1200 pieds carrés, là, c'est la moitié d'une maison.
C'est tout petit, tout petit.
Et ça te prend 100 000.
Oui.
100 000 d'épargne, donc une décennie d'épargne pour y arriver.
Mais, avec 20%. Je parle comme un vieux mon oncle, mais à mon époque, quand j'ai fait l'acquisition d'une première résidence, très modeste, ça prenait pratiquement rien. On n'avait même pas besoin de donner un paiement initial, c'est-à-dire un capital très, très imposant. Par contre, nos taux d'intérêt frôlaient les 20%. Oui. Alors, tu comprends, il n'y a rien.
Ça, c'est notre époque, Paul. C'est le segment Michel Barrette de notre chronique. Ah. C'est une autre époque, tu comprends? On parle du passé aujourd'hui. Ah. Les jeunes n'ont pas connu ça, tu sais.
Oui, non, je sais.
Zéro.
Non, je sais. Ils n'ont pas connu ça. Par contre, ils n'ont pas connu des placements garantis à 17,75.
Non, exactement ça, Paul. Juste à y penser. Avoir de l'argent en 81.
Alors, justement, là, tiens, acheter un condo comme placement.
Ouais, en parlons-en. J'en ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Je dis, écoute, on dit acheter un condo comme placement. Oui, il y a des questions à se poser. Le premier, c'est quand tu fais ton modèle d'affaires, tu regardes combien tu peux louer présentement, tu regardes les taxes foncières présentement puis les frais de condo. Mais faites attention, si tu achètes un condo sur plan, l'annonce est souvent très faible. Les frais de condo sont souvent au minimum légal. Les taxes municipales ne sont pas encore avec le gain de valeur marchande. Les assurances sont approximatives. Et n'oubliez pas que si vous louez un locataire, lui, il garde le droit de ne pas augmenter son loyer en fonction d'autre chose que le calcul prévu par la régie du logement. Vous vous dites, hey, c'est pas grave. Moi, je vais louer Airbnb. Tu sais, je vais louer à court terme, je vais faire bien de l'argent. Attention. Airbnb, il y a beaucoup de syndicats de copropriété qui l'interdisent. Donc, vous arrivez, vous louez ça à Airbnb. Un mois plus tard, le syndicat de copropriété vote une règle que t'as pas le droit d'Airbnb. Fait que là, ton modèle d'affaires s'effondre, mais t'as un locataire, t'as signé un bail que lui, il peut rester à moins que tu décides de le reprendre pour toi. Mais si t'as déjà une maison, ça va être dur à justifier. Donc, tu vois, ça arrive en plus. Faut que tu dises, si t'achètes un condo neuf, faut que t'ailles, pour la même grandeur qu'une maison, une vraie épargne, une économie, parce que tu possèdes pas le terrain à 100%, donc tu devrais avoir une économie d'échelle. S'il y a des ascenseurs dans votre condo, ça coûte plus cher, la piscine sur le toit va se dégrader, la brique c'est cher, donc pensons à ça. Mais surtout, dites-vous que les frais actuels présentés, ça prend une variable. Les jeunes disent, pas grave, j'ai trouvé du monde qui vont louer ça à 1500, 2000, 2500. Il y a des jeunes couples qui n'ont pas la mise de fonds, mais qui veulent vivre ce mode de vie-là, qui sont prêts à payer. Ils sont rares. Ceux qui existent, ils existent, mais attention, est-ce que ces gens-là, ils vont pas être, demandés attirés par l'achat dans quelques années, ou simplement, est-ce qu'alentour, ils vont pas pousser des condos comme des champignons, et finalement, vous proposez une incapacité de louer à quelqu'un. Et là, votre modèle d'affaires s'effondre et vous devez vendre. Mmh. Et il faut pas oublier que là, des frais de transaction, disons un condo de 300 000, un agent d'immeuble va te coûter 5%, donc 15 000 avec taxes. Donc, tout ça fait en sorte que ton modèle d'affaires est pas hyper payant sur le court terme. On n'est plus à l'époque d'une pénurie de logements majeure, il y en a une petite, mais si vous voulez louer à du monde qui vont payer 2 000, 2 200 par mois dans la région métropolitaine, c'est des gens qui ont une situation particulière.
Bien sûr.
Il y a pas une humain sensé qui va dire, je vais payer 3 000 par mois pour un loyer, quand à côté, il pourrait l'acheter pour le même prix.
Ben voilà, dire, je vais l'acheter, c'est sûr. T'sais. Ben oui. Quand tu as les moyens de pouvoir l'acheter. Merci, Pierre-Yves.
Salut, Paul.
À demain.